La deuxième semaine de janvier est déjà terminée, on a déjà eu la première échéance des options pour 2026 et on est déjà en train de penser aux vacances de ski, voire même au printemps qui arrive. Pendant ce temps-là, les marchés se mettent en marche gentiment, pas de grande direction, de la peine à trouver ses intentions, on ne sait pas trop où on veut aller. Ce début d'année qui est déjà bien merdique pour plein de raisons diverses et variées donne quand même l'impression que les investisseurs moyens sont incapables de s'intéresser à quelque chose plus de 15 minutes. En revanche, quand on attend un chiffre trimestriel ou un chiffre macro, bah on est capable d'en faire une affaire d'État pendant 3 semaines avant sa publication et de l'oublier la minute d'après pour se concentrer sur le chiffre suivant. Mais malgré tout ça, on va dans tous les sens et on a de la peine à s'auto-convaincre d'une direction ou d'une autre. Ouais, cette semaine, des records sont tombés, des records d'altitude sont tombés aux USA, en Europe, en Allemagne, en Hollande, en France et même en Suisse. Pourtant, à la fin de la semaine, on hésite toujours autant et on n'arrive pas à définir la tendance ferme et définitive. Ce bull market peut-il continuer ou sommes-nous en manque d'énergie? Les chiffres qui ont été publiés cette semaine, que ce soit les chiffres des bancaires ou les chiffres de l'inflation, ne nous ont pas donné de direction claire puisqu'il y a eu à boire et à manger. Que ce soit les chiffres de Goldman ou de BlackRock qui démontrent qu'ils sont en train de piétiner la planète finance ou ceux du CPI qui démontrent que l'inflation ne peut plus en avant mais qu'elle ne rend pas encore les armes, il est difficile d'en tirer des conclusions afin de construire une vision à plus de 24 heures. Sans oublier bien sûr que Trump ne nous laisse pas respirer une seconde, ce qui n'aide pas vraiment à se construire une stabilité quelconque en ce début d'année. Et au sujet de Trump, apparemment, il n'a pas fini de faire parler de lui puisque hier, il a annoncé vouloir coller des tarifs douaniers supplémentaires à tous les pays qui feraient mine de s'interposer entre lui et le Groenland. Les 12 chasseurs alpins qui ont été envoyés au Groenland à grands coups de propagande vidéo par le chef suprême de l'armée française risquent de coûter tellement cher à l'économie de l'Hexagone, on n'a pas fini de rigoler. Bref, la semaine que nous venons de vivre ne nous apporte rien de plus que de l'incertitude et des doutes. Finalement, les deux choses qu'il faut peut-être retenir, c'est que les taux ne baisseront pas dans 10 jours et qu'il va falloir attendre encore pour s'exciter là-dessus. Et l'autre, c'est que l'IA est toujours là, mais que c'est plus les mêmes qui lead le mouvement pour l'instant. On décortique tout ça juste après le générique. Bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le samedi 17 janvier 2026 et je suis Thomas Bayet. Et jusqu'à maintenant, le Groenland n'appartient toujours pas aux États-Unis.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Normalement, on dit que les gens reviennent s'intéresser au marché à partir du 15 janvier. Bon, là, on est le 17 et quand je vois les volumes et l'intérêt global pour le monde merveilleux de la finance, j'aurais tendance à encourager les gens à se bouger parce qu'on commence à trouver le temps long. Enfin, pour ceux qui sont là depuis le début. Enfin, sauf si vous étiez long sur l'argent, Micron, le SOX, et que vous aviez un peu de TSMC, et surtout, si vous n'étiez pas short Nikkei. Si on revient sur la semaine qui vient de s'écouler, il y a 2-3 choses qui auront quand même marqué la semaine, à commencer par ce que l'on appellera le plombier gate. Jérôme Powell a été convoqué par le département de la justice parce qu'on lui reproche d'avoir trop dépensé dans la rénovation de la Fed. Son budget était de 2,5 milliards et aujourd'hui on est à plus de 3,2 milliards. Une bricole de 700 millions, même pas de quoi se payer un F-35. C'est dire pourquoi on s'excite en ce moment. Toujours est-il qu'on lui colle tout ça sur le dos et même si Trump jure à qui veut l'entendre qu'il n'y est pour rien dans la convocation de Powell devant la justice, au vu de tout ce qu'il balance sur le patron de la Fed à chaque poste sur un réseau social quelconque, on peut quand même se poser des questions. Du coup, Powell a publié une vidéo pour prévenir que ce qui se passait ressemblait de plus en plus à de l'ingérence dans les affaires de la Fed et que ça n'était pas bon pour l'économie et les marchés. Et surtout que c'était de la pression politique pour le forcer à baisser les taux. Et Trump a répliqué très diplomatiquement en disant, je cite, « Ce pauvre type sera bientôt parti ». Et quand je dis « pauvre type », c'est vraiment la version polie de la traduction. Les marchés n'ont même pas bronché à l'annonce de ce vaudeville moderne. Mais en revanche, on a quand même assisté à une levée de boucliers pour prendre la défense de Jérôme Powell et pour sauver l'indépendance de la Fed. À la fin de la semaine, on commence à admettre que Powell ne partira pas avant sa date de péremption prévue au mois de mai et Trump semble commencer à comprendre qu'il va encore devoir attendre 4 mois pour pouvoir mettre son clone en place à la Fed et faire sauter le concept de l'indépendance de la Fed. On en reparlera, mais aux dernières statistiques de Polymarket, c'est Kevin Warsh qui devrait succéder à Powell, et lui, il fera tout ce qu'il faut. D'abord pour plaire à son bon président, et ensuite pour baisser les taux au plus bas possible. Ce qui devrait, bien sûr, plaire au marché et à nous tous. Un autre sujet qui nous a occupé cette semaine, c'est les chiffres trimestriels des bancaires. Oui, la saison des earnings est officiellement lancée, et comme d'habitude depuis quelques années, JP Morgan a ouvert le bal. Les chiffres étaient bons, que ce soit chez JP, Citi, Wells Fargo, Bank of America, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas moche non plus. Le problème se situe plus dans les détails qui se cachent dans les bilans de chacun. Citi a des problèmes avec la Russie, JP Morgan voit des ralentissements dans la banque d'affaires, et un CEO qui pense que ça va être plus compliqué que prévu en 2026, et Wells Fargo a des problème de marge. Mais l'un dans l'autre, ce qui préoccupe surtout le secteur bancaire, c'était la bombe de Trump sur son envie de jouer les Robins des Bois et de plafonner les intérêts des cartes de crédit à 10% dès le 20 janvier. Quand on sait que la moyenne actuelle est de 22%, même la famille Corleone paraît avoir des principes beaucoup plus humains. Mais les banques hurlent à la mort parce que les marges vont se faire défoncer et que du coup, être banquier, ça va être trop dur. Gagner de l'argent, ça va être plus compliqué. Le marché et le secteur n'ont donc pas trop aimé les velléités de Trump à vouloir faire un takeover sur la forêt de Sherwood du monde de la finance et à déboulonner les shérifs de Wall Street. Ce qui est super intéressant, c'est que tout le monde a paniqué, mais en même temps, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que pour faire passer ce décret, il va falloir le faire passer par le Sénat et le Congrès. Deux organismes indépendants, remplis de politicards à deux balles, qui se font sponsoriser leur campagne de réélection par les mêmes banques qui devraient subir la réduction des marges. Pas sûr que ça passe aussi facilement. Et le lobby bancaire sera à Washington pour y veiller au grain. Mais au-delà des cartes de crédit et du côté grosse banque universelle qui en prennent plein la gueule, en fin de semaine, on a eu les publications de Goldman, Morgan et BlackRock. Et là, c'était pas la même mayonnaise. C'était carton plein chez les stars de Wall Street, les chiffres sont stratosphériques et le business des banques d'affaires, que ce soit au trading ou dans la fusion-acquisition, est au top de son game. Mais c'est BlackRock qui était le plus impressionnant. Le roi des ETF fait un carton, la masse sous gestion explose et Larry Fink n'est peut-être pas aussi riche qu'Elon Musk, mais il devient de plus en plus le roi du monde de la finance et bientôt la Fed devra passer par lui pour savoir ce qu'il doit faire sur les taux d'intérêt. Surtout que son système de gestion des risques, Aladdin, est utilisé par la Fed. C'est rigolo quand même, hein ? Une banque centrale qui utilise un système de gestion des risques payant, qui est fourni par une institution qu'ils sont censés chapeauter indirectement, c'est rigolo. Bref, la semaine dernière, dans le secteur bancaire, il y avait ceux qui faisaient tout juste et il y avait les autres. En revanche, une des constantes de la semaine dernière, c'est l'IA. L'IA qui est toujours au top. On a eu TSMC, le cœur battant du silicium, qui a explosé les compteurs avec un profit en hausse de 35% et qui vont injecter 250 milliards sur le sol américain pour prouver que l'IA n'est pas une bulle, mais une révolution industrielle. Et puis au cas où les Chinois attaquent Taïwan, ils seront moins planqués aux States. Ce qui a entraîné tout le secteur à la hausse, d'ASML en passant par Bézi et Micron et Kaela. Nvidia n'était pas le plus grand bénéficiaire de tout ça, mais ce qu'il faut surtout retenir de ce qui s'est passé avec TSMC, c'est que les annonces de la société taïwanaise démontraient encore une fois que le business de l'IA cartonne et que les perspectives 2026 et 2027 ont l'air plus qu'enthousiasmantes. Au milieu de tout ça, on notera que Google a franchi les 4000 milliards de valorisation grâce à un deal avec Siri d'Apple et que Michael Burry est ressorti de sa grotte pour massacrer Oracle, accusant leur visage à 180 degrés dans le secteur du cloud d'être un caprice de milliardaire de 80 ans financé par une dette abyssale. Et que si la bulle IA pète, Oracle se retrouvera avec une montagne de ferraille et une dette impossible à rembourser. On n'en est pas là, bien sûr, parce qu'on y croit encore. On y croit encore à l'IA et au fait que son financement va finir par payer un jour. Quand on sait pas, mais pour l'instant on y croit encore. Pour faire simple, l'IA cartonne toujours, mais c'est plus les mêmes qui en profitent. Pour l'instant, Nvidia traîne la patte, et puis la nuit dernière on a appris que les fournisseurs de composants pour les puces H200 de Nvidia ont interrompu leur production après que les autorités chinoises ont décidé de bloquer les livraisons de ces mêmes puces H200. Le retour de Nvidia sur le marché chinois subit tout d'un coup un nouveau coup dur. Et puis la semaine dernière, on a eu aussi droit au CPI, au PPI et aussi à quelques chiffres de l'emploi qui semblent aller mieux que ce que l'on pensait, pour peu qu'on fasse confiance aux chiffres que l'on nous communique. En gros, l'inflation ne monte plus et les prix à la production ne semblent pas impactés par les tarifs douaniers, et cela même si on entend quand même que beaucoup de sociétés n'osent plus répercuter les prix sur leurs clients de peur de faire fuir la clientèle. Pour l'instant, ça ne préoccupe pas le marché qui n'a que Dieu pour le fait que l'inflation ne monte plus, mais un jour, on verra que les marches sont en train de fondre comme un bonhomme de neige sur une plage de Rio, et là, ça risque d'être un tout petit peu moins fun. Toujours est-il que les chiffres de l'inflation étaient sous contrôle, que les chiffres de l'emploi d'il y a 10 jours étaient merdiques, en gros que des chiffres qui pointent en direction d'une baisse des taux à venir. Mais, manque de bol, les publications des Jobless Claims de jeudi, ainsi que les indications du Philly Fed, montraient quand même que l'emploi n'allait pas si mal. Le taux de chômage est donc à 4,4% aux States, que l'on frise le plein emploi, et que ceux qui n'ont pas de job pourront bientôt partir monter des business au Groenland. Nous retrouvons donc une espèce de paradoxe économique, l'emploi ne semble plus détérioré, l'inflation est sous contrôle, mais est encore trop du point de vue des gars de la Fed, et du coup, peut-être qu'on peut attendre pour baisser les taux. On marche actuellement sur une espèce de fine ligne de crête qui peut nous faire basculer d'un chiffre à l'autre en mode de baisse des taux ou pas. Malgré toutes ces bonnes nouvelles économiques qui nous remplissent de joie et de bonheur, on retiendra quand même que les chiffres du Benchbook publiés cette semaine nous confirment que la consommation est devenue un sport de riches. Les classes populaires regardent les prix avec angoisse en suçant du Xanax, pendant que les autres, aisés, claquent tout dans le luxe et les voyages. Merci aux métaux précieux, merci aux marchés qui ont explosé. La fracture sociale, aujourd'hui, n'est plus un mythe, et encore moins aux États-Unis. En conclusion, l'économie est tellement solide, entre de gros guillemets bien sûr, que la chance d'une baisse des taux le 28 janvier sont tombées à 5%. On veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, mais on ne sait pas encore si on est allergique au lactose. Pour le reste, eh bien, on retiendra que c'est toujours le bordel en Iran, mais que Trump pense que tout est sous contrôle, et les tarés qui sont au pouvoir, pour l'instant, restent au pouvoir. Ensuite, personne ne veut que le Groenland passe en main américaine, mais Trump n'en a strictement rien à foutre, et ça n'est pas l'œil du tigre du président français qui va calmer les ardeurs. On parle toujours du Venezuela, parce qu'on ne sait pas trop où on va sous la houlette de Trump, et les pétrolières dansent la samba en se disant « bon, j'y vais ou j'y vais pas ». Et face à ce merdier mondial, les investisseurs se ruent sur les métaux, l'or a tapé les 4645, l'argent a franchi les 90 dollars, et le bitcoin flirte avec les 95 000 dollars, même si, en cette fin de semaine, c'était plus compliqué pour aller chercher les 100 000. En résumé de tout ça, l'économie est solide, mais on a quand même les nerfs à vif, Trump brasse de l'air pour occuper le terrain, l'IA porte le Nasdaq à bout de bras, et l'inflation semble ne plus pouvoir avancer pour le moment. Revenons maintenant par chez nous. En Suisse, les consommateurs ont été moins dépensiers en décembre. L'indice du climat à la consommation s'est établi à moins 30,7 points le mois dernier, affichant une baisse de 0,4 points sur un an selon les dernières données du SECO. Du côté de l'immobilier, les loyers ont augmenté en moyenne de 2,3% en 2025, après une accélération de 3,2% en 2024 et de 4,7% en 2023, selon HomeGate et la Banque cantonale de Zurich. On passe maintenant aux performances de la semaine. Alors vous voyez qu'il y a à boire et à manger, le CAC 40 qui termine en baisse de 1,3% à cause du luxe et l'argent qui prend quasiment 12% sur la semaine à cause de, on a besoin d'aller sur l'argent parce que l'argent va à 500 dollars de toute façon. Après vous avez le Nikkei qui continue à monter, à bien se comporter, rebond du Bitcoin bien sûr, mais Nikkei qui explose parce que le Japon parle de nouvelles élections, à des élections anticipées qui pourraient donc accélérer le fait de mettre des nouveaux subsides et des nouveaux stimulus au Japon, ce qui a bien sûr fait plaisir au marché, même si on ne se pose pas trop la question pour l'instant de savoir comment on va financer tout ça. Surtout que le 10 ans japonais est toujours à 2,18%. Le semi-conducteur index a explosé, ça on en a parlé. Les très bons chiffres de Taiwan Semiconductor ont fait tirer tout le secteur des semi-conducteurs, des puces à mémoire type Micron et compagnie. Donc le stock est au plus haut de tous les temps. C'est encourageant pour la suite, pour les indices, puisqu'on sait que c'est un early indicator. Le Hang Seng monte aussi, la Chine se porte plutôt pas mal. Et puis alors aux États-Unis, eh bien on a finalement un Dow Jones qui termine en hausse de 0,33%, un S&P qui baisse de 0,38% et le Nasdaq qui perd 0,66%. C'est pas la meilleure semaine de l'année. Et pendant ce temps-là, le DAX prend 0,14% et la Suisse est en baisse de 0,10%. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse partie des marchés qui n'ont pas foutu grand-chose sur la semaine. Sur la performance du SMI, vous voyez que Partners Group remporte la première marche du podium avec 7,19% de hausse sur la semaine. Kuehne+Nagel est également en hausse. Et puis, Roche a été upgradé en termes de target par Goldman Sachs et UBS, mais ne monte que de 2,38%. Novartis a fait 2-3 annonces positives et prend 1,37%. Et de l'autre côté, c'est plus compliqué du côté de Sika. On va y revenir dans 2 secondes. Plus compliqué du côté de Richemont. On va y revenir dans 2 secondes. Geberit, plus compliqué également. On va y revenir dans 2 secondes. Également. Et pour le reste, pour l'instant, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal, mais le SMI n'a pas foutu grand-chose sur la performance nette de la semaine, mais on voit qu'il fallait faire du stock picking, il suffisait d'être long Partners Group et short Sika sur la semaine, et vous étiez heureux. On attaque avec les graphiques de la semaine. Alors ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vous voyez la tendance qui est affirmée sur le SMI. On ne se pose pas de questions. Ça ne fait que monter gentiment, mais sûrement. Tant qu'on reste sur cette ligne de tendance et qu'on ne vient pas casser les 13 300 à la baisse, pour l'instant, on reste affiché sur une tendance verticale. Mais vous voyez, si on voulait pinailler un petit peu, la tendance est un tout petit peu trop vertical. Le S&P 500 pinaille à haute altitude. Alors, on a de la peine à sortir de ce triangle. Il y a quelques mois en arrière, on avait déjà eu ce type de configuration en triangle sur le S&P 500. On hésite. Et puis finalement, de toute façon, comme on sait pas faire autre chose, on va aller chercher les plus hauts. Je reste convaincu qu'on va aller chercher les 7000. De toute façon, on est tellement prêt. On a pratiquement réussi à le faire la semaine dernière. Donc, le prochain objectif sur le S&P 500, sauf mauvaise nouvelle, ce sera d'aller chercher les 7000. Il y a les chiffres, bien sûr, trimestriels qui commencent la semaine prochaine, qui vont être très intéressants à observer et qui pourront permettre ou pas à l'indice d'aller chercher plus haut. En même temps, si on venait à casser à la baisse et qu'on venait en dessous des 6800, ça serait pas très encourageant. Mais pour l'instant, on sait qu'on a cette fameuse moyenne mobile des 50 jours qui nous sauve les fesses à chaque fois. Le Nasdaq ne fait pas grand chose non plus. Lui, il a de la peine. Hein. Il a de la peine pour l'instant, probablement parce que les Magnificent Seven ont de la peine et ils n'arrivent plus à avancer. Le Nasdaq est coincé un petit peu dans un range latéral. Vous le voyez très bien. On ne doit pas casser la tendance haussière dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire cette zone on va dire qu'il passe là par les on doit tenir les 25 100, ça serait pas mal sur le Nasdaq pour continuer à espérer. Vous verrez aussi qu'on a une résistance ici par là. Si on arrive à casser cette résistance, on va certainement aller chercher les plus hauts autour des 26 000 et des poussières sur le Nasdaq. Mais pour l'instant, on aura besoin des Magnificent Seven pour le faire. Le Dow Jones a fait plusieurs records cette semaine. Hein. Vous voyez qu'on est allé chercher. On termine pas la semaine au plus haut tous les temps, mais on a fait un nouveau plus haut. Là aussi, on attend d'aller chercher les 50 000. Retour sur l'Europe avec le DAX qui s'envole. Il y a eu 2-3 chiffres économiques, pas franchement euphoriques, mais qui montraient quand même que l'Allemagne était renouée avec la croissance. Bon, plus 0,2%, on s'emballe pas. Mais en tous les cas, on voit que le DAX va bien. Techniquement, le gros support, il se situe à 24 725. Et puis, pour l'instant, pour aller chercher les plus hauts, ça a l'air d'être relativement facile. Il suffit qu'une guerre se déclenche quelque part dans le monde et vous aurez toutes les boîtes de l'armement qui vont exploser en Allemagne. Le CAC 40 a réussi à aller chercher des plus hauts historiques cette semaine, mais c'est dégonflé en fin de semaine. C'est un petit peu décevant, mais le principal coupable, c'est le luxe. Le luxe, toujours lié à la Chine. LVMH publiera ses résultats la semaine prochaine. Ça sera un petit peu le juge de paix pour la France et pour l'Europe, mais globalement pour l'instant on a eu un repli sur le secteur du luxe qui pense effectivement que c'est difficile pour la Chine et c'est pas fini du tout pour le moment. Le pétrole, c'est écrit Iran en gros dessus, donc vous voyez qu'on est allé chercher, on a cassé nos tendances descendantes sur le baril en début de semaine, on est allé chercher la résistance sur la moyenne mobile des 200 jours à 62 et des poussières, et direct derrière, il n'y a pas eu d'envahissement de la part des Américains, c'est un retour à la case départ, et puis on est de nouveau sur le bas de cette ancienne résistance qui est devenue pour l'instant un support. Il faudrait qu'on tienne la moyenne mobile des 50 jours hein, qui passe aujourd'hui par 58-55. Sinon, on va réintégrer ce triangle et aller chercher les plus bas. Mais bien sûr, ça dépendra de ce qui se passe au Moyen-Orient ces prochains temps. Trump a l'air d'avoir lâché la bride pour l'instant au Mollah. Bon, l'or, ça se passe de commentaires. Vous voyez qu'on est toujours plus ou moins au plus haut de tous les temps. Ça ne veut pas baisser. Et dès que ça baisse un peu, les banques centrales et les spéculateurs reviennent dessus. L'argent, pareil. On est toujours plus ou moins au plus haut de tous les temps. C'est quasiment vertical. Ça fait très très peur. À un moment donné, il va y avoir une claque monumentale sur l'argent, mais pour l'instant, ça ne fait que monter, donc nothing to complain, mais beaucoup de gens adorent tout d'un coup l'argent, et on parle vraiment de target beaucoup plus haut. A priori, on devrait en tout cas aller chercher les 100 prochainement. Les tensions géopolitiques et le merdier international continuent de profiter un petit peu au Bitcoin, qui tente une sortie de ce range latéral. On est toujours dans une espèce de tendance haussière. On a essayé de casser, mais pour l'instant, on a réintégré notre tendance haussière à long terme, ce qui veut dire que on peut pas exclure le fait qu'on ait encore une fois cherché les 88 000 sur le Bitcoin. Mais attention, tentative de cassure à la hausse. Et si les tensions géopolitiques mondiales continuent à exister et à pousser, typiquement, je pense à l'Iran, on pourrait avoir potentiellement une accélération au-dessus des 95 000 pour aller chercher, évidemment, les psychologiques à 100 000 $ sur le Bitcoin. Je termine avec un dernier chart. Vous voyez la grosse flèche rouge, c'est le rendement du 10 ans japonais. Alors bon, ok, il est très très haut, il est beaucoup monté ces derniers temps, hein, depuis mi-décembre, on est passé de 1,7 à 2,18, c'est pas rien. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez la version long terme, vous voyez, septembre 2019, taux négatif, ici, là, Et puis aujourd'hui, 2026, janvier 2026, 2,1840. La dette est toujours monstrueuse au Japon. Et aujourd'hui, si je gérais un fonds de pension au Japon, bah, je penserais gentiment à, finalement, à la place de placer ça aux États-Unis, de ramener tout ça en yens chez moi, hein? Pourquoi pas? On passe maintenant aux vedettes de la semaine. On commence par Sika, les as de la colle qui ont bossé sur l'Elp Philharmonie. Se sont pris les pieds dans le tapis avec un chiffre d'affaires annuel qui fait la gueule. Entre une Chine qui est dans le coma du côté immobilier et un franc suisse qui se prend pour Terminator, l'action a dévissé de 7% au début de semaine. Le grand patron Thomas Hasler a dû sortir les rames, expliquant que même chez l'oncle Sam, le business joue à cache-cache pendant que le gouvernement ferme boutique et se restructure. Résultat des courses, pour sauver les meubles et garder une marge de 19%, le groupe va sortir la tronçonneuse et donc supprimer 1500 postes. Bref, pour l'instant, Sika attend que l'économie américaine leur redonne un coup de fouet, parce qu'en ce moment, l'ambiance chez Sika, c'est pas rose, c'est plutôt morose. Alors, on a déjà regardé plusieurs fois ce graphique, hein. Souvenez-vous, la dernière fois que j'en ai parlé, je crois que c'était même la semaine dernière, on avait cette espèce de tendance haussière qui s'était dessinée. Bon, retour à la case départ. Hein. On est retourné chercher les supports des 150 balles. Alors, pour l'instant, ça a toujours bien tenu. C'est la troisième fois qu'on vient les tester. Si on y croit encore, on peut peut-être jouer quelque chose, mais pour l'instant, ça commence un petit peu à fatiguer. On sent que les investisseurs sont quand même massivement déçus sur ce qui se passe sur Sika. Et quand on regarde sur le long terme, c'est vrai que ça fait un petit peu souci hein, quand même. En 2022, d'accord, c'est en 2022, ça valait quand même pratiquement 380 balles. Aujourd'hui, on est à 150 et on se bat pour tenir les supports. Chez Partners Group, ils ont fait chauffer la machine avec 30 milliards de dollars de nouveaux actifs, s'offrant le luxe de squatter le haut de leur fourchette visée. Avec des assets totaux qui ont gonflé de 21% pour atteindre les 185 milliards, les petits génies de Zoug ont littéralement mis une claque aux prévisions des analystes qui les voyaient bien plus mal en point que cela. Entre le non-coté qui cartonne et les infrastructures qui carburent, les gars ont brassé 27 milliards d'investissements tout en sachant quand lâcher les pépites pour encaisser le pognon. Pour 2026, ils gardent les dents bien longues en visant jusqu'à 32 milliards de net new money, même s'ils nous préviennent quand même que les commissions de performance feront profil bas, histoire de pas être trop arrogant. En résumé, c'est une santé de fer pour le champion du placement privé qui continue de rouler sur l'or. Voilà, si on se projette sur le long terme, vous voyez que c'est des grandes vagues qu'on a sur Partners Group. Et là, visiblement, on est en train de repartir pour une nouvelle vague. Et que finalement, c'est plutôt pas mal. Hein. On était exposé récemment, on a fait des exagérations au mois de novembre autour des 898. Et là, on repart à l'assaut des 1096. Donc, extrêmement belle performance ces derniers mois. Les chiffres sont bons, les perspectives sont encourageantes. C'est un magnifique contre-pied qu'on est en train de faire sur les marchés, à surveiller attentivement. On est dans une tendance plus ou moins haussière pour l'instant. On va attendre que ça se confirme. Là, il y a une grosse accélération, donc ça devrait revenir un petit peu à plat. Mais si ça continue comme ça, on peut espérer que d'ici ce printemps, on aille retitiller les 1200 francs suisses chez Partners Group. Chez Lind und Sprüngli, on ne fait pas que des lapins en or. On transforme aussi le cacao hors de prix en montagne de billets avec une croissance organique de 12,4% qui vient de doucher les prévisions des analystes. Pour compenser la flambée des cours de la fève, les gars n'ont pas tremblé en gonflant leur tarif de 19% tout en misant sur le carton planétaire de leur chocolat Dubai Style pour faire craquer les influenceurs. Pendant que l'Europe dévorait les tablettes à plus 15,3%, l'oncle Sam a fini l'année en boulet de canon, prouvant que même avec un moral de consommateur dans les chaussettes, personne n'est prêt à lâcher son carré de Lindor. Malgré un franc suisse un peu trop musclé qui vient gratter quelques plumes au bilan final, le groupe confirme qu'il est le patron du premium en raflant des parts de marché comme si de rien n'était. On se donne donc rendez-vous le 10 mars pour les chiffres définitifs, mais la maison suisse a déjà prévenu que dès 2026, elle compte bien continuer à rouler sur la concurrence avec une croissance entre 6 et 8%. Alors ce qui est assez rigolo quand vous regardez le graphique de Lind und Sprüngli, c'est qu'effectivement les annonces étaient super positives, mais on a ouvert très fort et on finit de nouveau au fond du bac. Alors est-ce qu'on a peur que finalement ça ne tienne pas le coup lors des publications du 10 mars? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'était très bien sur le papier, mais très mal interprété par le marché. On se retrouve néanmoins à des niveaux à 11 120, où ça devrait quand même tenir, et vu les perspectives encourageantes qu'ils ont annoncées, peut-être que c'est l'occasion de se repositionner là-dessus, même si le problème de la cherté du cacao reste quand même quelque chose qui fait un petit peu peur aux investisseurs. VAT Group a littéralement tout fait péter cette semaine. Les investisseurs ont enfin compris que la machine à semi-conducteurs repartait de plus belle. Même si le chiffre d'affaires a boudé un peu, les commandes ont explosé le plafond et l'action a franchi les 503 francs suisses portés par l'espoir d'un jackpot monumental pour l'exercice 2026. Avec une marge de 30% et un cash flow qui grimpe de 23%, le groupe prouve qu'il sait encaisser les caprices du dollar, tout en gardant une santé qu'on peut qualifier de santé de fer. Et les clients se sont même rués au portillon avant la hausse des prix de janvier, boostant les chiffres de fin d'année et faisant briller les yeux des analystes. En résumé, on est sur la rampe de lancement d'un énorme rebond du secteur des semi-conducteurs. Et si les prédictions se confirment, l'année qui arrive va être une régalade totale. Voilà, quand vous regardez le graphique, ça se passe de commentaires. La boîte a doublé depuis le mois de septembre, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, c'est explosif. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des annonces, boum, ça explose. Nouvelle marche d'escalier, boum, ça explose. Et là, nouvelle marche d'escalier, effectivement, on revient là où on était. On est même en train d'atteindre les niveaux du mois de juillet 2024. Donc, on voit que c'est reparti, on va dire, full power chez VAT. Et c'est plutôt encourageant parce que là, on arrive à des niveaux qui font très, très peur. Parce qu'une fois qu'on aura cassé les niveaux des 525, on ne sait pas ce qui va nous arrêter pour aller chercher beaucoup plus haut. Richemont nous a sorti une fin d'année étincelante avec 6,4 milliards d'euros au compteur, prouvant que le bling-bling résiste à tout, même quand le climat macro fait la gueule. Et si la joaillerie continue de briller comme un diamant pur avec Cartier en locomotive, l'horlogerie fait de la résistance héroïque face aux taxes de l'oncle Sam et à une Chine qui traîne un petit peu les pieds. Grosse surprise au pays du soleil levant et aux Émirats, où les clients ont littéralement fait chauffer la carte bleue, compensant un franc suisse qui joue les gros bras et qui grignote dans les marges. Pourtant, malgré ce carton plein, l'action s'est fait exploser en bourse. Les traders font les enfants gâtés et ont quand même préféré prendre les bénéfices après l'année 2024-2025 qui avait déjà battu tous les records. Qu'importe l'humeur du floor, les analystes gardent Richemont comme leur petit chouchou du secteur luxe, misant sur cette valeur refuge pour pimenter une année 2026 qui s'annonce déjà pleine de rebondissements. En attendant, Richemont est sous pression et a emmené le luxe avec lui. On attendra les chiffres de LVMH la semaine prochaine pour voir dans quelle direction on se dirige. Voilà, le graphique se passe de commentaires. Explosion depuis le mois d'août. Et puis, ben là, prise de profit. Donc, on était à 180 le jour de la publication des résultats. Et on se retrouve à 160, 20 balles de perdu. On a un petit gap à aller combler ici sur Richemont. Et éventuellement, on va faire une exagération sur la moyenne mobile à 152 francs. Mais peut-être qu'à 152 francs, quand on voit les commentaires positifs de la part du monde merveilleux des analystes, peut-être qu'il faudrait essayer de se repositionner sur Richemont. Mais là aussi, attendons quand même les chiffres de LVMH la semaine prochaine. Guébérite, le roi incontesté des trônes, a fini l'année 2025 en mettant les bouchées doubles sur la croissance organique, même si le patron préfère rester prudent pour ne pas glisser sur le carrelage cette année. Et si l'Allemagne et le Moyen-Orient ont mis le paquet pour doper les revenus à 3,16 milliards, la Chine continue de faire la grimace et de plomber l'ambiance, avec un marché de la construction toujours dans les choux. Entre la fermeture d'une usine outre-Rhin qui a coûté un peu de pognon et un franc suisse qui joue les gros bras, la rentabilité a pris un léger coup de canif, même si les marges restent globalement solide. Le marché n'a d'ailleurs pas fait de cadeau en faisant plonger l'action en fin de semaine, les investisseurs ayant visiblement besoin d'un signal plus clair pour croire au grand retour du secteur du bâtiment. En bref, on attend que la rénovation redonne un coup de brio à tout ça, mais avant de sabrer le champagne, le spécialiste de la tuyauterie garde les mains propres dans un environnement qui reste sacrément boueux, même si le management reste très prudent. Voilà le graphique de Gébéric. Voici donc le graphique de Geberit. On est revenu sur la moyenne mobile des 200 jours, donc plutôt des niveaux d'achat pour l'instant. Mais on voit qu'on n'arrive pas à trouver une tendance. Hein. C'est en haut, en bas, tu sais pas où tu vas. Et puis là, pour l'instant, il va falloir qu'on ait cherché les 650 pour espérer quelque chose d'intéressant. Mais là, sur faiblesse, peut-être que c'est toujours l'occasion de revenir. Et puis qui sait, je peux vous dire que le jour où ils vont signer un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, tout le monde va se jeter sur les boîtes de la construction inévitablement. Donc sur ces niveaux-là, entre 595 et 600, pourquoi ne pas essayer de remettre une petite pièce ? On passe au en vrac de la semaine et on commence avec le rail. Stadler Rail va moderniser 93 rames pour les Suisses de Turbo, destination la Hongrie, et les chemins de fer MAV, montant du ticket 100 millions de francs suisses. Pirer Mobility muscle la direction de KTM, arrivée de Stefan Reif comme Chief Commercial Officer. Le marché n'a pas aimé, mais alors pas aimé du tout, le titre s'est fait démonter. Calendrier bousculé pour la banque cantonale de Bas-Campagne, résultat reporté au 26 mars, la faute à la liquidation de Radican qui traîne dans les statuts. Fin de partie pour Meyer Burger, le titre a été décoté après une chute finale de 74%. Souvenez-vous, au sommet, l'action valait 1400 balles. Aujourd'hui, on termine avec un prix final à 0,0048. Le fleuron du solaire suisse s'est éteint. Chez Nestlé, c'est l'heure des comptes. Le DG Philippe Navratil a présenté ses excuses en vidéo pour la plus grande campagne de rappel de l'histoire du groupe sur les produits pour bébés. Finalement, ça a permis au moins de remonter un petit peu avec ses excuses. Chez Sando, Londipta est sur les rails, homologation confirmée pour le lancement en 2027. Temenos, les voyants sont ouverts, croissance généralisée et rentabilité en hausse sur tout l'exercice 2025. Bossart, le retour de la croissance malgré un Francfort et la géopolitique, et les acquisitions portent leurs fruits. Ascom, la barre est redressée, il y a un deuxième semestre solide qui sauve l'année. Et puis autrement, Implenia rafle la mise des contrats d'infrastructure en Allemagne et en Norvège, le tout pour un total de 326 millions de francs dans le carnet de commandes. Grimace chez Colten, le marché américain est trop faible et ça pèse lourd sur le résultat 2025. Même constat pour Zender, les ventes montent mais les profits ne suivent pas les attentes. Sunrise était sous pression, le marché s'agite autour de rumeurs de vente d'un très gros bloc d'actions. Et on termine avec la magie de Goldman Sachs sur Kuehne+Nagel. Hier, la banque américaine était à la vente. Aujourd'hui, c'est retournement de veste total, il passe à l'achat et propulse l'objectif de 147 à 210 francs. C'est magique, on se croirait presque à Poudlard. Bon, ben, on va résumer la situation. On est sur des sommets historiques un peu partout, mais on a quand même un tout petit peu le vertige. On a une économie qui a l'air de vouloir jouer les bodybuilders sous stéroïdes, mais on n'est pas sûr que ça tienne sur le long terme. On a une inflation qui fait de la résistance héroïque, mais qui au moins ne monte plus. Et un Donald Trump qui veut transformer le Groenland en resort de luxe, tout en expliquant à Jérôme Powell que son budget déco de la Fed dépasse les bornes. Pendant ce temps, les investisseurs essaient de comprendre s'ils doivent acheter de l'IA jusqu'à la fin des temps ou se réfugier dans des lingots d'or, ou alors carrément de l'argent. La semaine prochaine, on va arrêter de regarder les faïences de Geberit pour se concentrer sur le vrai juge de paix, LVMH. Si Bernard Arnault arrive à nous convaincre que le monde a encore envie d'acheter des sacs à main à 5000 balles malgré la méfiance de Pékin et les velléités de Robin des Bois de la Maison Blanche, alors peut-être que ce bull market pourra encore galoper un petit peu. Bon, au-delà de LVMH, il y aura quand même aussi du monde au balcon, aux States, avec l'arrivée de Netflix, de 3M, d'Intel ou encore de Procter & Gamble. Et puis lundi, c'est Martin Luther King Day aux États-Unis. Alors ne vous précipitez pas trop vite au bureau, ça va être très très calme. Déjà que c'est super calme en ce moment, je sais pas comment ça va être la semaine prochaine. D'ici là, surveillez votre tension, ne shortez pas le Nikkei trop vite, ce truc veut pas baisser, et surtout n'oubliez pas que dans ce monde merveilleux de la finance, comme dirait l'autre, si vous ne savez pas qui est le pigeon autour de la table, c'est probablement vous. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire cette semaine, j'en oublie sûrement, bien sûr, mais bon, je crois là que j'en ai donné pas mal déjà. Nous, on se retrouve bien sûr lundi pour le Morning Bull Live. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Passez un excellent week-end et à lundi. Et puis surtout, merci d'être là. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.